ça aura pas la même saveur que d'être servi par sa grand-mère.
Il m'en reste un pot, enfin un tiers de pot, et je ne veux pas le manger. En fait, il est dans mon frigo. Je sais même plus s'il est encore bon. Juste, je peux pas le manger. Je me dis, c'est le dernier truc qui me reste d'elle, enfin le dernier goût de cet achat. Et donc, je le regarde. Et de temps en temps, je me dis, allez, mange-le. Et non, je le mange pas. Voilà, je le goûte même pas. Il est juste là, quoi.
C'est brûlé. J'ai jamais réussi à le produire d'une manière aussi précise que ma mère le fait. Et pourtant, je sais qu'elle travaille sans balance, sans timer, et que tout se fait au doigt et à l'œil.
Les filles m'appelaient, je donnais même pas le nom des épices. Pour moi, il fallait rajouter un peu de rouge, un peu de jaune, un peu de gris pour le poivre, un peu de piquant ou un peu de sucre. Mais c'était toujours un petit peu de ci, un petit peu de ça, mais jamais des quantités et jamais les noms, en fait, des épices.
Après, quand je mange, ça me fait donner envie de pleurer.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. On l'a vu, sur ces 20 dernières années, le marché du livre de cuisine est plus que jamais florissant. Recettes de grands chefs, guides pratiques, manuels thématiques, beaux livres, best-sellers de cuistots tarifiés vus à la télé, chaque mois, des milliers de recettes sont imprimées. Et elles participent toutes à leur manière à la construction d'une mémoire culinaire collective. Il y a pourtant un angle mort. Au sein du vaste cosmos des recettes qui prennent vie dans les cuisines de ce monde, certaines restent secrètes car jalousement conservées dans les familles, ou imprécises car personne n'a jamais pensé à en noter les proportions des ingrédients. Ces recettes de famille ont un goût unique, celui de la confidentialité, du fait maison et des souvenirs d'enfance. Ce sont ces spécialités ultra-régionales que l'on ne fait que dans telle ou telle bourgade. Ces plats aux intitulés simples, genre poté de mamie, ou encore ces astuces qui ne se chuchotent que dans l'antre des cuisines domestiques. En quoi les histoires culinaires permettent-elles l'écriture de nos identités familiales? Que veut dire faire famille en cuisine? Et que faire pour préserver nos recettes menacées d'extinction? Qu'est-ce qui se joue dans le secret des marmites? À mesure que les anciens nous quittent, que les petits-enfants font leur vie aux quatre coins de la planète, que les familles se recomposent, que peut-on encore transmettre dans le creux de nos assiettes? Pourquoi les goûts de nos recettes de famille sont-ils si difficiles à reproduire? En cette fin d'année, Bouffon vous propose une plongée dans l'odyssée des cuisines familiales, sur la trace des plats au goût unique. Dans ma famille, ma mère a la réputation de faire la meilleure sauce nurkmam, ce doux liquide à base de poisson fermenté, de citron, d'ail et de piment, qui sublime n'importe quelle friture. Intense, légèrement sucrée, avec ce qu'il faut d'acidité et de pimenté, celle-ci est incomparable. Impossible pour moi de reproduire cette saveur. Même en ayant observé ma mère des dizaines de fois, je ne parviens pas exactement à obtenir le même équilibre des arômes. Car la recette de ma mère ne peut être résumée en une liste d'ingrédients. Elle me dit toujours « Je ne peux pas te préciser s'il faut mettre 2, 3 ou 4 citrons parce que tout dépend de leur acidité. Il faut donc goûter au fur et à mesure. » C'est sympa, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Résultat des courses, ma mère est, par définition, la seule détentrice de la meilleure recette de sauce nurmam. Parce qu'à moins d'hériter de son palais, impossible pour nous d'approcher sa manière de faire, en l'absence d'unité de mesure claire et concise. Le nurkmam de ma mère n'est pas la seule recette à faire de la résistance. Il y a aussi ses nouilles au caramel. Ma mère sait exactement à quel moment il faut jeter les nouilles de riz dans un sucre en train de fondre en caramel dans une poêle chaude. Chez moi, la réussite de cette opération est toujours très aléatoire. Il m'arrive de mélanger mes nouilles trop tôt dans un caramel qui n'a pas pris, ou trop tard, et de voir le sucre durcir. J'ai beau avoir observé ma mère faire un paquet de fois, j'ai beau même lui avoir demandé de me décomposer chacun de ses gestes, je n'y arrive jamais aussi bien. J'ai même laissé ma mauvaise foi aller jusqu'à accuser la spatule en bois, en me disant que c'était peut-être de la faute de cet ustensile. Mais après vérification, je n'ai aucune excuse puisque je possède exactement le même modèle que celle que ma mère utilise. Cet échec culinaire me frustre d'autant plus que les nouilles au caramel sont l'un de mes plats préférés et qu'il m'arrive souvent, à l'autre bout de la France, à l'autre bout de là où vivent mes parents, de vouloir en manger. Mais c'est peut-être là la beauté des choses. À l'ère de l'hyper-reproductibilité numérique et industrielle, certaines choses continuent à ne pas être duplicables si facilement. Le goût unique de la cuisine de nos proches en fait partie. Ainsi, cette sauce Nurmam comme ses nœuds au caramel sont peut-être voués à rester éternellement associés à la table à manger en marbre vert de chez mes parents, à Lille. Finalement, ne serait-ce pas à cet endroit précis que se loge la tendresse que l'on a pour certains plats de famille ? Ne serait-ce pas justement parce qu'ils ne se laissent pas être reconstitués si simplement que certains plats ont une place au chaud dans nos cœurs ? Car plus que des goûts et des textures, les plats sont des souvenirs en puissance. Et je trouve cela très beau. Car tous autant que nous sommes, nous avons toutes et tous dans notre panthéon des réminiscences quelques plats solidement ancrés. L'autre jour, lors d'un cours avec mes étudiants en Master 1 et Master 2 de la fac de Nanterre, j'ai laissé traîner un micro afin qu'ils nous parlent des plats de famille chers à leur cœur et incomparables à toute recette de la même catégorie. Vous entendrez pêle-mêle Lou, Amine, Margot et Aïda.
C'est une friandise que mon père il faisait quand j'étais petite. À l'approche des fêtes de fin d'année, en fait, il fait des caramels. Donc, c'est pas des caramels au beurre salé, c'est des caramels au beurre normal. Moi, je suis très gourmande et en plus, j'adore Noël. Et du coup, ces friandises, ça me fait penser à Noël et ça me rappelle vraiment des bons souvenirs quand j'en mange. Quand j'étais petite, je demandais souvent à mon père, quand les fêtes approchaient, d'en faire avec lui. Du coup, je faisais la recette avec lui, mais je me posais pas vraiment la question de comment on faisait. Et quand j'ai commencé à cuisiner toute seule, j'ai essayé d'en faire. Et c'était un échec. Je savais pas trop pourquoi. Du coup, je suis retournée voir mon père et je lui ai demandé de faire la recette avec moi. Du coup, j'ai noté toutes les étapes et tout.
Un de mes mets préférés, c'est le tagine de coing au poulet de ma mère. C'est un plat qui me rappelle tellement de bons souvenirs, de moments passés avec la famille. En fait, il y a une anecdote sur le plat. C'est mon père, une fois, il est parti au marché, comme à ses habitudes. Et du coup, il revient avec, je ne me rappelle plus combien de kilos de coing. C'était prévu qu'il en fasse de la confiture. Mais on avait tellement trop qu'à la fin, voilà, il en restait. Et du coup, ma mère a eu l'idée d'en faire un tagine à sa manière, quoi.
Le soufflé au grand marnier de mon grand-père. En fait, c'est toujours ma grand-mère qui cuisine les repas quotidiens, mais aussi quand il y a la fête. Sauf les desserts, c'est toujours mon grand-père qui le fait. Donc, pour Noël, pour Pâques ou des autres jours fériés, le dessert est toujours son soufflé au grand marnier.
Il y a un dessert qui me rappelle mon enfance, mon adolescence, toute ma jeunesse, quoi. C'était un plat que ma grand-mère nous faisait quand on avait des invités ou pour n'importe quelle occasion. En particulier les fêtes de fin d'année, elle nous faisait un gâteau au flan. Et ce gâteau au flan, il contenait 4 étages. Il était très consistant. Du coup, j'ai essayé de le reproduire, mais j'ai failli à cette tâche. Même si j'ai la recette transcrite, expliquée à maintes reprises, mais j'ai jamais pu reproduire le même goût.
Je suis ensuite allée au Café Mirabel, dans le 11e arrondissement de Paris, pour rendre visite à Marion Gueutelet, chef qui régale l'Est parisien de ses 12 pâtisseries et fière ambassadrice de l'Alsace, sa région natale. Fille de restaurateur et petite-fille de pâtissier, Marion a toujours baigné dans une culture familiale riche en saveurs culinaires. Mais parmi ces dernières, il y en a une en particulier qui habite encore aujourd'hui Marion, le gâteau aux noix de sa grand-mère.
J'ai tout de suite pensé au gâteau aux noix de ma grand-mère parce que c'est vraiment un vrai souvenir pour moi d'enfance. Parce que en fait, on avait des noyers pas très loin de chez mes parents. Et du coup, avec ma sœur, on allait ramasser les noix. Ensuite, on les décortiquait. Donc ça prenait quand même vachement de temps. Et ensuite, on les ramenait à ma grand-mère qui habitait dans un autre village pour qu'elle nous prépare le gâteau aux noix. Et du coup, pendant tout ce temps où on ramasser les noix, décortiquer les noix, on était déjà dans l'attente de pouvoir manger le gâteau et du coup on avait une espèce de satisfaction quand on mangeait le gâteau de mérite quoi, d'avoir attendu. C'est pas comme si on allait genre à la boulangerie acheter quelque chose et puis voilà, on avait vraiment passé du temps à ramasser les noix et puis après on donnait ça comme une offrande à ma grand-mère qui genre après le transformait en gâteau aux noix. Donc c'était vraiment un super souvenir pour moi parce que voilà, ce gâteau je l'adore. Et du coup, c'est vrai qu'on le refait souvent au Café Mirabel parce que c'est une très bonne recette de gâteau bien moelleux. Et moi, ça me permet de faire vivre encore les recettes de Mamie Yvette à travers voilà le café Mirabelle et c'est comme un peu un gris-gris en fait et puis comme elle c'est la seule de ma famille qui a jamais vu le café Mirabelle parce qu'elle est décédée juste quelques mois après l'ouverture, ben moi ça me permet de continuer le lien avec elle en faisant encore cette recette là ou deux trois autres recettes comme sa tarte au fromage blanc, mais c'est surtout le gâteau aux noix qui est vraiment présent au café Mirabelle. En plus, comme elle était pâtissière de formation et de métier, qu'elle nous faisait toujours des très bons gâteaux, mais notamment le gâteau aux noix, ben moi, voilà, ça me permet de me dire que c'est un peu notre étoile qui veille sur nous, mais qu'il faut faire vivre en parlant d'elle, en marquant son nom sur la carte et en refaisant ses recettes.
Marion Götlet explique ensuite ce qui rend ce gâteau aux noix si unique et ce pourquoi elle ne l'a pas maîtrisé du premier coup.
Il faut des bonnes noix et puis il faut les faire torréfier et tout ça, donc il y a un vrai goût de noix. Ensuite, il y a une petite touche spéciale, c'est le zeste de citron qui peut paraître anodin mais qui fait beaucoup dans la recette. Puis citron et noix, ça marche très bien. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que la première fois où je l'ai refait, j'avais pas encore le café Mirabelle, je travaillais dans un autre restaurant et je me suis dit tiens, je vais faire sa recette et en fait, j'ai pas mis le schnapps parce que j'en avais pas sous la main. Et que je me suis dit, c'est pas grave. Et en fait, quand je l'ai goûté, je me suis dit, mais c'est dingue parce que ça n'a rien à voir avec la recette de Mamie Yvette. Et en fait, j'étais super déçue de moi. Et je me disais, je comprends pas ce que j'ai loupé dans cette... Parce que pour moi, l'alcool n'avait pas une place si importante dans la recette. Et je me disais, mais c'est pas du tout. Et vraiment, je me rappelle de le manger et de me dire, ça n'a rien à voir avec le souvenir que j'en ai. Et de le refaire quelques jours plus tard avec du schnapps. Et là, je retrouvais vraiment le goût. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand même, mes grands-parents nous mettaient de l'alcool dans tous nos gâteaux quand on était enfants.
Alors, Marion a la chance d'avoir su finalement apprivoiser cette recette jusqu'à pouvoir la reproduire avec précision. Et je vous le dis tout de suite, pour avoir goûté ça, je peux vous assurer que c'est une tuerie. Mais ce n'est pas le cas de tous les chefs dont certains peuvent des années durant être à la recherche du bon coup de main cuisinier, de l'ingrédient magique ou des bonnes proportions. Née d'une mère sénégalaise et d'un père malien, Maurice Sacco propose une cuisine métissée, une cuisine d'auteur où les condiments japonais peuvent par exemple s'inviter dans des plats de la gastronomie africaine. Chez Mosuke, jeune restaurant déjà coiffé d'une première étoile. Maurice est talentueux, mais il y a pourtant un plat qu'il ne parvient pas encore à aborder comme il le souhaiterait. Le tieboudienne, ce plat mijoté sénégalais dans lequel on retrouve des carottes, du manioc, de la sauce tomate, ainsi que de la viande ou du poisson. Le tieb de Maurice, en l'état, est très bon. Mais quand on a connu celui de sa mère, impossible d'oser se comparer à cette dernière.
C'est un plat que je dois exorciser maintenant. Mais c'est un plat qui a un goût unique et indescriptible. Et en même temps, c'est un plat que j'ai essayé de reproduire sans jamais être satisfait du résultat ni retrouver ce goût unique. Donc moi, c'est le plat, c'est le tieboudienne que ma mère fait. C'est vraiment un plat... un peu un plat totem de la gastronomie sénégalaise. D'ailleurs, plat qui a été récemment introduit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est un peu les yuyus. Mais donc, ma mère fait ce tieboudienne depuis que je suis tout petit. Elle le fait pas mal aux occasions spéciales, quand elle reçoit des invités ou quand on a des grandes fêtes de famille. Et donc, c'est un plat qui est assez fastidieux à faire parce qu'on doit d'abord cuire le poisson, le frire. Ensuite, cuire le poisson dans un bouillon de légumes qu'on a précédemment préparé avec des carottes, du chou, un peu d'aubergine amère. Et ensuite, on cuit le légume, le poisson ensemble dans ce bouillon. Puis, on retire tous les légumes et le poisson et on finit par cuire le riz dans ce bouillon qui nous a servi à cuire le légume. Tout en prenant soin d'en prélever une partie pour le faire réduire, ce qui nous servira de sauce après. Donc, c'est un plat qui a fait sur quasiment une journée. Et c'est vrai que... c'est un plat que, malgré le fait que je lui ai demandé au moins 200 fois comment on fait ce plat, comment on le réalise, et que j'ai déjà essayé avec elle, à chaque fois que je le réalise seul, je peux le faire goûter à qui le veut, on me dit, c'est super bon, mais moi, j'ai jamais réussi à retrouver ce petit goût qui fait que son tieboudienne est particulier. J'ai réussi à identifier le pourquoi du comment, après plusieurs tentatives, et elle a toujours ce moment où, quand le riz cuit, En fait, il l'accroche dans le fond de la gamelle. Et c'est un peu comme la socara qu'on trouverait dans la paella ou autre. Mais se brûler dans le fond va donner un fumet à tout le riz. Et en fait, le riz, en plus d'avoir le goût du tchibouguen, va avoir des notes de fumée, mais hyper élégantes. C'est plus, on aime plus sur une torréfaction, sur un toasté. Et moi, ce brûlé, j'ai jamais réussi à le produire d'une manière aussi précise que ma mère le fait. Et pourtant, je sais qu'elle travaille sans balance, sans timer, et que tout se fait au doigt et à l'œil, quoi. Donc, c'est vraiment le plat où je suis coincé à l'heure d'aujourd'hui.
Selon Maury, il est évident que la différence entre son approche de la cuisine et celle de sa mère tient à l'expérience, professionnelle chez lui, sensible chez elle.
Quand je mets les riz à cuire ou quand je vais le ou à mi-cuisson, et je pense que elle ne le remue jamais en profondeur, elle le remue uniquement en surface. Et pour moi, c'est là où tout se joue, mais j'arrive pas à le laisser brûler assez pour qu'il prenne ce fumet. Le peu de fois où j'ai essayé de laisser brûler plus, bah j'ai brûlé complet, donc ça sentait juste le brûlé et pas le toasté caramélisé, quoi. Il y a vraiment une grande dose de sensibilité dans la cuisine que ma mère fait, et c'est là où ça s'exprime, dans ces moments où elle soulève la casserole, et je pense par rapport à ce que ça sent, par rapport à la texture du riz, elle arrive exactement à savoir à quel moment s'arrêter. Et je pense que c'est l'œil que je dois développer et le nez. Mon côté romantique me dit que c'est beau, qu'elle ait cette touche et vraiment que ça soit en fait sa, un peu sa patte et sa signature à elle, que de trouver ce moment et d'avoir le bon dosage pour avoir ce goût de fumée et cette perfection, on va dire, dans quand est-ce qu'arrêter la cuisson de ce riz. Mais en même temps, je me dis que j'ai quand même envie que le plus grand monde sache, de par mon métier, ce talent qu'elle avait et surtout la manière qu'elle avait de cuire ce riz. Donc, j'aimerais quand même, je penche plutôt pour le fait de l'hommage et de réussir à maîtriser cette cuisson pour pouvoir la proposer au plus grand nombre, parce que ça mérite vraiment d'être goûté, parce que toute personne qui, que ça soit mes potes, que ça soit de la famille, que ça soit les voisins qui ont goûté ce tchibouguen, bah généralement ils me redemandent très souvent quand est-ce que ta mère a fait du tchib. Donc je pense que ça quand même mérite à perdurer et à durer dans le temps.
Je n'ai pas résisté à l'envie de demander à Maury s'il envisageait tout simplement une collab avec sa maman, en l'invitant au fourneau le temps de quelques repas exclusifs.
C'est un truc auquel je pense vraiment, parce que il y a une vraie demande en plus, hein. J'ai beaucoup de clients et tout, de gens qui adorent la gastronomie sénégalaise et qui me disent, mais c'est bizarre, en fait, pas de tchep. Et je leur dis, me parlez pas du tchep. et je pense qu'il y a pas longtemps, hein, j'étais vraiment proche de le faire, et je pense que d'ici la fin de l'année prochaine, il y a des grandes chances que je la convainc enfin de venir faire ce tchèbe au restaurant et qu'on puisse proposer à des gens, que ça soit sur une petite OP, un petit pop-up. Mais ouais, j'y pense, moi. En tout cas, j'ai envie, mais elle, pour l'instant, pas trop.
Vous l'aurez donc entendu ici, en 2023, Maury va peut-être réussir à convaincre sa mère de venir cuisiner chez Mosuke avec lui. L'anecdote de Maury montre qu'il est parfois difficile de se rapprocher d'un goût lorsqu'on n'a pas de recette précise sous la main et d'indications sur des temps de cuisson. Mais d'autres fois, le problème relève des ingrédients, de leur nature ou de leur origine. C'est ce que m'a raconté mon amie Chloé Babola, chef au bistrot Georges, à Marseille. Que ce soit au resto ou chez elle, Chloé est une fine cuisinière qui sait nourrir le corps comme l'esprit avec ses assiettes toujours généreuses. J'aime tout particulièrement le poulet au mori qu'elle nous fait certains dimanches soirs pour éponger la mélancolie de la fin du week-end. Chloé m'a parlé de la poule au pot de sa grand-mère au Pays Basque. Une recette onctueuse avec sa sauce si réconfortante, mais surtout une recette dont le goût unique dépend de la pièce maîtresse, la fameuse vieille poule.
Je pense à la poule au pot de ma grand-mère du Pays Basque, un repas qu'on adorait avec mes sœurs et qu'on mangeait donc 3-4 fois par an quand on venait la voir au Pays Basque. Et qui ressemble à une sorte de blanquette de veau, mais faite avec une vieille poule. Donc avec ce même style de sauce, des carottes, des champignons, et accompagné de riz. Un truc délicieux, quoi. Et ça remonte à loin, mais on allait chez des éleveurs de volailles, qui n'étaient pas très loin de chez mes grands-parents. Et dans mes souvenirs, c'est un peu, je pense, comme le coq au vin, une poule un peu vieille, donc il faut une cuisson lente et douce et longue. Mais tout le mystère, c'est que
on vient de vider la maison de ma grand-mère au Pays Basque et j'ai récupéré un très vieux livre de recettes, un petit grimoire vraiment tout petit là, écrit de sa main et j'espère qu'il y a cette recette. Mais j'ai même pas encore osé ouvrir toutes les pages, mais voilà, j'espère qu'il est dedans ou alors que ma mère a la recette. En plus, c'était pas quelqu'un qui aimait tant que ça cuisiner, mais il y a quand même quelques recettes, je pense, sympas, mais j'espère surtout qu'il y ait celle-là, en fait.
Et t'as déjà essayé de refaire cette poule au pot, même sans la recette ?
Non, jamais. Je suis plutôt dans le style volaille, un peu crémeuse et tout. Je fais la volaille au vin jaune et au mori. Voilà. Et je pense que si je l'aime autant, c'est parce que ça fait référence à un truc de l'enfance. Mais non, je ne l'ai pas encore essayé. Ben, ça appartient au passé, en fait. Enfin, c'est un peu... Je sais, enfin, ça n'aura pas le même goût que quand c'est moi qui m'attablais et que le plat arrivait. Même si je le fais un jour, ça n'aura pas la même saveur que d'être servi par sa grand-mère. Et puis même, trouver le produit. Parce qu'en fait, où est-ce que là, à Marseille, je vais trouver un éleveur qui a des vieilles poules ? Il y a aussi les produits. Enfin, bon, pour le reste, du riz, des carottes, des champignons, oignons, tout ça, c'est... Mais il faudrait que je trouve aussi une vieille poule. Si c'est bien ça, parce que moi, c'est l'idée que je me fais de la poule au pot. C'est que c'est avec une vieille poule, mais j'ai même pas fait de recherche. Donc, il y a un petit travail d'archiviste, alors...
La vieille poule nécessaire à la recette de cette poule au pot est en fait une poule qui ne pond plus. Elle est alors abattue à ce moment-là afin d'être consommée mijotée, afin d'attendrir sa chair devenue plus dure, mais qui se gorgera aussi plus facilement du goût du bouillon. Cette histoire de chair de volaille plus dure me fait penser à un autre plat, le feu ga, cette soupe de nouilles au poulet que l'on mange dans le nord du Vietnam. Certaines recettes locales précisent qu'il est meilleur de plonger le poulet dans une eau glacée après sa cuisson afin d'en affermir la chair. Après avoir discuté avec Maurice Sacco et Chloé Babola, je réalise un peu plus encore à quel point un plat est toujours une juste combinaison entre des ingrédients et des manières de faire en cuisine. Ainsi, chercher à refaire un plat à l'identique, c'est toujours prendre le risque de s'éloigner de la version que l'on vise en modifiant à peine la nature d'une herbe, un temps de cuisson ou un grammage. Bref, refaire un plat à l'identique est quasiment mission impossible. Et pourtant, les bonnes surprises arrivent aussi. Il y a d'autres fois où l'on parvient à reproduire un goût même sans l'avoir vu venir. C'est ce que m'a raconté Viviane de la cantine chinoise Lim Set à Belleville. Un soir, alors qu'elle rentrait tard du travail, un plat de tofu attendait Viviane. Un plat préparé par son mari, un plat qui allait l'émouvoir jusqu'à lui arracher des larmes.
C'est un plat qui est présenté à notre très ancienne recette de pays en Chine. On est venu en France à l'âge de 16 ans. On n'a jamais pu retourner au pays pendant un certain moment. Donc le plat comme ça, il est vraiment abandonné dans notre souvenir. Et il y a un jour, mon mari, il a commencé à préparer une recette pour moi. Et ce jour-là, il préparait ce plat, le tofu, qu'on peut l'acheter très souvent, très populaire. Et ce jour-là, lui, il m'a préparé ce plat-là, il m'a laissé goûter. Évidemment, quand j'arrive dans le restaurant, c'est déjà froid. Et après, je l'ai demandé de chauffer pour moi, même pas une minute, en 30 secondes, quoi. Après, il a chauffé le plat et après, quand je mange, ça me fait donner envie de pleurer. J'ai l'impression que ce plat-là, il me fait un rappel de recettes que j'ai jamais été retrouvées dans le pays de la France. Comme nous, on a du mal à partir aussi au pays, évidemment, même on a des familles là-bas. Et du coup, quand il a préparé et je mange, et ça me fait vraiment un goût de souvenir de notre recette de tofu de Daddy. Le tofu de Daddy, en fait, le plat, ça ne vient pas en famille, mais c'est vraiment un petit recette qu'on a mangé. C'est pour grignoter après l'école, quoi. Et du coup, ça nous vraiment retrouvé tous les souvenirs quand j'étais au pays, tout petit, quoi.
Le tofu dont parle Viviane, on le trouve à la carte de Lim Set, sous le nom de Tofu Daddy, à la première page. je trouve très touchant le fait qu'on puisse reproduire dans une cuisine domestique le goût industriel d'un mets qui connote une précédente vie, avant la migration. C'est aussi cela que la cuisine porte en elle, le pouvoir de ressusciter des pans de nos vies à travers le souvenir de personnes comme le souvenir de certains lieux. Vous venez d'écouter la dernière série de Bouffons de l'année, une série sur la cuisine et la transmission, les saveurs et nos patrimoines familiaux. Et puisqu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine en raison de notre petite pause de fin d'année, je vous quitte avec un cadeau sous forme de bonus. Il s'agit de deux petits témoignages liés au tablé de Noël. Le premier est livré par Aitor Alfonso, chroniqueur culinaire, et le second par Lucie Nolman, l'une de mes amies.
Moi, j'ai passé tous mes Noëls chez ma grand-mère, au Pays Basque espagnol. Ma grand-mère qui avait jadis une auberge dans son village et qui était une très fine cuisinière. Et donc moi, à Noël, mes madeleines de Proust, ce sont tous les grands plats de la cuisine basque, en fait, des années 50. À Noël, on mangeait par exemple toujours un merlu ouvert en portefeuille au four qu'on finissait avec un déglaçage au vinaigre et au piment d'Espelette, comme au Pays Basque. C'est un truc que j'adore. C'est-à-dire qu'en gros, ton poisson blanc est cuit, pas trop cuit, juteux, et tu le finis par un trait de vinaigre pimenté. C'est une tuerie. Et puis, à côté de ça, on mangeait des croquetas, meilleures croquetas de l'histoire de l'univers. On mangeait aussi des huîtres. Ça, je pense que c'est là un peu la petite touche française. D'ailleurs, je me souviens de mes oncles très fiers d'eux, un peu bravaches, qui nous disaient à tous de sortir de la cuisine parce que c'était le moment où ils ouvraient les huîtres. C'est un truc un peu viril. Évidemment, on est en Espagne, donc on mangeait du jamón. On mangeait des grandes assiettes de sucré. On mangeait des turrones, on mangeait du polvorón, on mangeait des turrones de différentes sortes. Et puis, on restait très longtemps à table, parce qu'en Espagne, il y a évidemment ce concept génial qui s'appelle la sobremesa, qui veut dire la surtable, qui est ce moment du repas où tu as fini de manger et tu débarrasses pas et tu restes à table pendant très longtemps. Et nous, on joue aux cartes. Tu bois des coups, tu bois un petit pas de charane et tu discutes, tu fais des blagues. Voilà. Donc, c'était des soirées longues et très enjouées. Et souvent aussi, le lendemain, on faisait un repas et on finissait, on mangeait en dessert, je me souviens, un lait caillé qu'elle faisait, qui s'appelle la cuajada en espagnol, du lait de brebis caillé avec du miel et des noix.
Je suis anglaise et c'est toujours mon père qui a cuisiné à la maison. Et le repas de Noël, c'est vraiment le plat qu'on attend toute l'année avec mon frère. Et ça me fait toujours rire parce que dès que je montre des photos à mes amis français, ils sont toujours horrifiés puisque eux, ils ont l'habitude des coquilles Saint-Jacques, des plats un peu plus élaborés, alors que nous, c'est des pommes de terre avec la dinde, les choux de Bruxelles, les carottes, la sauce au pain. Mais je ne saurais pas comment décrire, ça a vraiment un goût incroyable. C'est vraiment un mélange de plein de saveurs. La sauce cranberry, la farce, la sauce gravy, je ne sais pas comment on dit en français. Donc la sauce au pain, donc c'est de la mie de pain qui est cuite dans du lait. Et mon père, on commence à cuisiner très tôt le matin et on mange généralement vers 17h. Et heureusement, il en fait en grosse quantité parce qu'on en mange pendant 3 jours après. Ah oui, et il y a aussi, j'ai failli oublier, les pigs in blankets. Et je trouve le nom trop mignon, donc cochon dans une couverture. Et c'est des petites saucisses qui sont enroulées de bacon. Et ça, pareil, tout le monde mange ça à Noël, avec le repas de Noël.
Une dernière question, Lulu. Est-ce que tu sais faire ces plats ?
Eh ben non. Super, merci de me faire me rendre compte que je suis extrêmement nulle en cuisine. Non, je plaisante, mais c'est vrai que t'as raison. Cette année, tu sais quoi, je vais aider mon père et on va le faire ensemble.
J'aime beaucoup ces deux récits appétissants, car ils montrent à leur manière la diversité des plats de Noël. Ces temps de fête où l'héritage culinaire de nos familles s'expose, les petits plats dans les grands. Si vous aimez Bouffons et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffons est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, Mathilde Jonin et Diane Le Sieur. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.